La croche-oreille.
Alors salut tout le monde, bienvenue à la croche-oreille. Je vous propose ce soir une rencontre fort sympathique, chaleureuse avec les artistes Géraldine Py et Roberto Verde qui ont complété le printemps dernier un projet radiophonique des plus singuliers, je dirais même magnifique. Tout ça lors d'un séjour de 3 mois au Québec dans le cadre d'une résidence croisée entre la coop Méduse et l'organisme Tank de Marseille, une résidence qui était parrainé par le centre Avatar. Alors, l'histoire de ce projet intitulé Les mains vides se résume en quelques lignes. À défaut de réunir autour d'une même table, et là je reprends leur expression, les artistes, les écrivains, chorégraphes et cinéastes qui les ont inspirés sur le plan artistique, et je dirais surtout durant leurs études, Py et Verde vont à leur rencontre à vélo sur les routes de France, de Suisse et d'Italie. 2300 kilomètres plus tard, quel parcours! Waouh! Alors, ils vont en faire une œuvre radiophonique durant leur séjour au Québec. L'œuvre combine le récit de rencontres fortuites, des mélodies animalières, des extraits de films et d'entretiens, entre autres avec Ettore Scola, les chanceux, ils l'ont rencontré durant ce périple, le grand réalisateur. Il y a aussi des ambiances de cafétéria, de route, somme toute une communauté de pensée qui va les entourer. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on écoute de larges extraits du projet Les mains vides. C'est accompagné des propos de Géraldine Py et de Roberto Verde que j'ai recueillis en entrevue téléphonique il y a une dizaine de jours.
L'artista è solito passeggiare in larghe vie dove appaiono strane coincidenze. Una tra le più intriganti riguarda la somiglianza tra le opere. Nonostante esse siano prodotte da una varietà di organismi coscienti che vivono in contesti e latitudini diverse. Forse siamo davvero gli istanti di un medesimo moto dello spirito, di un rizoma o di una specie di nuovo stato di coscienza, collettiva e impersonale. La nostra collaborazione è iniziata così. Due individui che per errore si scambiano i taccuini e si ritrovano stupiti a guardare una copia delle proprie idee. Abbiamo deciso quindi di lavorare insieme per evitarci guai. Malgrado le nostre fonti di ispirazione fossero diverse, eravamo appassionati dagli stessi artisti. Le loro opere avevano un'area familiare e abbiamo cominciato a raggrupparli in una stessa famiglia, la nostra. I membri della famiglia sono Francis Alice, Giovanni Anselmo, Alessandro Baricco, Franco Battiato, Jérôme Bell, Michel Blasi, Jimmy Durham, Umberto Eco, Peter Fischli, David Emmons.
Alors, Géraldine et Roberto, je débute cette rencontre avec vous simplement en vous demandant, mais comment donc a surgi cette idée de voyage, cette belle aventure artistique à bicyclette là, qui va donner ce projet radiophonique intitulé « Les mains vides ».
Alors, ce projet, donc à la base... c'était aux Beaux-Arts. En dernière année, on devait fournir une sorte de petit mémoire comme ça voilà, qui expliquait
La pratique.
la pratique artistique, et puis qui mettait quand même en évidence les influences,
Les références,
les
ouais.
références qu'on avait. Et puis moi j'avais envie, plutôt que de faire une liste comme ça,
Dogmatique,
ben
justement.
de voilà, j'avais plutôt envie de faire dialoguer tous ces artistes que j'avais rencontrés dans mon parcours, enfin dont j'avais rencontré l'œuvre,
L'œuvre, ouais.
et donc j'avais fait un espèce de petit texte, de petit dialogue théâtral comme ça, qui mettait en discussion les artistes, soit via des choses qu'ils avaient dit dans des interviews, voilà, ou dans leurs
Des
livres,
citations, ouais.
ou des citations, ou à la fois il y avait aussi des... Par exemple, ça pouvait être ce qu'ils avaient fait dire à des personnages, etc. Et donc, c'était un petit récit comme ça, assez court, quelques
Fictif, ouais.
pages. Et puis, on s'est dit à la sortie de l'école, mais tiens, on a quand même vraiment envie que cette discussion se produise un jour. Ce serait beau d'imaginer que tous ces gens soient à cette table, parce que c'était vraiment ça, ce petit texte, comme si ils se retrouvaient tous
Une grande tablée,
à une
quoi.
grande tablée, un grand dîner. Et puis du coup, on s'est dit, bah évidemment, c'est à peu près impossible
De tous
de
les
tous les
convoiter, ouais.
avoir ensemble, mais pourquoi pas partir les rencontrer et puis
Comme un
découvrir,
pèlerinage, ouais.
comme un pèlerinage, comme un... En fait, c'était une volonté tout à fait personnelle, c'était un projet intime comme ça, il s'agissait pas spécialement de le relater, ou d'en faire
Une
justement
œuvre, ouais.
une œuvre. Mais ce voyage a été tellement inspirant, tellement intense, tellement
Enrichissant, ouais.
ouais, que bah forcément, à la suite de ça, on en a parlé beaucoup avec plein de gens, mais par enthousiasme. Et puis voilà, on a donné à lire les choses que nous on avait écrites pendant le voyage. Tu vois, forcément, à l'issue de ces rencontres, on n'avait rien enregistré. C'était pas des entretiens, c'était simplement voilà, des
Ouais,
rencontres
c'est ça.
informelles comme ça, chez
Ouais.
les uns, chez les autres. Et puis du coup, bah forcément, on a écrit un petit peu des textes comme ça pour se souvenir, enfin, même si on n'oubliera jamais, mais en tout cas, voilà, il y a une
Ouais, c'est
volonté quand
ça.
même d'écrire tout ça.
Et ça a pris plein de formes en
Et
fait.
ouais, et
Là, la
ensuite.
dernière, c'était la radio, mais au départ, en fait, c'était quelqu'un qui nous a quand même un peu poussé, parce que c'était une amie curatrice qui nous continuait à parler de cette envie d'aller rencontrer nos maîtres, notre famille des pensées, comme on les appelle. Nous a dit, bah, c'est génial, j'ai un projet dans un centre d'art, j'aimerais bien que vous fassiez ça, je vous invite à partir. Ah ouais, d'accord. Ah merde, c'est maintenant. Donc, ok, d'accord, ok, on part. Et on est parti un peu sans avoir forcément toutes les adresses. D'ailleurs, on en avait très peu. Et donc, le projet, la première version qu'il y a eu, c'était une espèce d'installation multimédia qui se faisait au fur et à mesure du voyage avec des documents, des données, du matériel qu'on envoyait pendant qu'on était en route.
Voilà.
Puis petit à petit, on trouvait de telle ou telle connaissance, l'adresse de, par exemple, d'Ettore Scola. Et donc voilà, on a fait notre voyage et puis effectivement on a été accueillis par des réseaux de cyclistes ou des gens comme ça rencontrés dans la route par hasard sur la route et qui sont devenus des personnages autant importants au sein du récit. Donc nous on voulait pas, comme déjà dit, on voulait pas enregistrer parce qu'en fait ça aurait biaisé en fait le rapport et on voulait vraiment y aller tout simplement se rencontrer comme si on était quelque part, on se présentait, tiens. Tonton, je suis ton. Tu me connais pas, mais en fait, je suis ton petit-fils. Tu vois, c'est un truc un peu absurde. Et donc, c'est voilà.
Roman Sidner est un homme heureux, tellement heureux qu'il rit de lui-même. Peut-être qu'il rit tout seul dans son atelier parfois, content de la nouvelle tentative, du dernier artifice. Sa joie est celle de celui qui s'en est tiré une fois de plus indemne. Quand on est son propre danger, l'existence ressemble à une suite insoluble d'instants aussi terrifiants qui la rend. Ce qui, en retour, doit amuser Alexandra, sa complice. Le bonheur est une petite chose, disait Trilussa. Roman a décidé de partager son bonheur, sa vision optimiste du cosmos. Peu importe que les étoiles tombent, quand leur fin est annoncée par une explosion. Roman Signer est un bricoleur affairé, un inventeur de garage qui admire autant Tesla que les vaches suisses. Nous avons longuement parlé des longs cils et de la robe gris-bleu luisante de certains des plus beaux spécimens croisés le long des routes de son pays et qui, pour ne rien gâcher, nous rappelaient tant les braques de William Wegman. Nous racontions alors la vidéo de cet artiste dans laquelle il imite avec les plis de son ventre une bouche d'homme-tron. Signer riait. Dans son garage, une ancienne voiture polonaise rouge en excellent état, peu surprenant étant donné l'épaisseur de la carrosserie, côtoie un Apetto, le triporteur Piaggio de 150 cm3. Celui-ci est dressé comme un obus visant tout droit le plafond, deux étages le séparent du ciel ouvert, mais à part ça, c'est vrai que c'est aussi une manière géniale de le ranger. Au début, à Saint-Gallen, le seul AP était le sien. Puis il a été victime de son succès et des imitateurs sont venus lui voler la vedette. Trop tard aujourd'hui pour qu'il puisse réclamer un sponsor à Piaggio, car entre-temps, Valentino Rossi a déjà relancé l'image du véhicule.
Era stato un marinaio che si chiamava Danny Budman. Lo trovò un mattino, che erano già tutti scesi a Boston, lo trovò in una scatola di cartone. Avrà avuto 10 giorni, non di più. Neanche piangeva, se ne stava silenzioso, con gli occhi aperti, in quello scatolone. L'avevano lasciato nella sala da ballo della prima classe, sul pianoforte. Non aveva l'aria, però, di essere un neonato di prima classe. Quelle cose le facevano gli emigranti di solito, partorire di nascosto da qualche parte del ponte e poi lasciare lì i bambini. Mica per cattiveria, era miseria quella, miseria nera. Un po' come la storia dei vestiti, salivano che avevano le pezze al culo, ognuno col suo vestito consumato dappertutto, l'unico che c'avevano. Poi però, dato che l'America era sempre l'America, le vedevi scendere, alla fine, tutti ben vestiti, con la cravatta anche, gli uomini e i bambini con certe camiciole bianche. Insomma, ci sapevano fare, in quei 20 giorni di viaggio, cucivano e tagliavano, alla fine non trovavi più una tenda sulla nave, più un lenzuolo, niente. si erano fatti il vestito buono per l'America, a tutta la famiglia. Potevi mica dirgli niente.
Et pourquoi vous avez pas choisi un tandem?
Moi, je crois qu'on n'aurait pas passé les montagnes suisses.
Exactement. Je crois qu'en fait, voilà, c'est ça la réponse.
Alessandro Baricco. Questa mattina l'umanofono si è rotto. Abbiamo trovato un atlante dove invece di mar Mediterraneo c'era scritto acqua. Invece d'oceano Pacifico c'era scritto molta acqua. Perché non appena chiamiamo le cose, ne trascuriamo il senso primitivo, come il colore da usare. Partiamo per un gran giro in bicicletta, seguendo una costellazione di punti piazzati sulla cartina dell'Europa. Sono i luoghi di rendezvous con gli artisti visivi, coreografi, scrittori, compositori e registi appartenenti a un gruppo che abbiamo definito come Famille de Pensée. E questa volta il caso non ci ha aiutato. I personaggi erano in anticipo sulla storia e tu ne fai parte.
Alessandro Baricco est un orateur. Il prononce la lettre Z d'une manière peu commune, dans un corps vocal ample et grave, apparaît de temps à autre ce son indompté. Et que ce petit parasite agisse dans la voix de l'auteur qui inventa l'humanophone constitue presque un fait naturel. Les choses sont bien faites. En italien, le mot zozoté se dit zeppola, et la zeppola, c'est aussi une pâtisserie. On s'était assis dans l'amphithéâtre de la Scuola Holden, école de storytelling créée par l'écrivain il y a quelques années.
Leggere è di per sé un gesto molto prezioso.
Baricco donnait le premier cours de la rentrée et nous a lu les premières pages de bouquins de certains auteurs bien connus, Fitzgerald, von Goethe, Proust, Dickens. Avant d'entamer la lecture de ce dernier, il demanda « Qui a la chance de n'avoir encore jamais lu Dickens ?» C'est une chose que j'ai pensé parfois, arrivé à la fin d'un livre de Beckett ou d'un film de Fellini. Chanceux sont ceux qui doivent encore les découvrir.
È una pratica, è una tecnica, è un esercizio, è un'arte marziale che ci aiuta ad avere un equilibrio.
Baricco raconte des histoires et je pense qu'il aime les métaphores. Il dit des choses du genre c'est comme passer d'un ours à un oiseau. C'est plus joli en italien. È come passare d'un orso a un uccello.
Complicato, ma complesso, ma è molto naturale. Aiuta veramente a prendere le dimensioni del mondo.
Il dit aussi invalide de guerre, photographie d'enfant, un fil, c'est fantastique, ça n'a rien à voir.
Perché è un gesto solitario, faticoso, eccetera. Troppo no. Ma a dosi diciamo regolate, come lo yoga.
Il termina son cours en disant que dans l'inconfort on apprenait mieux, que notre cul était certainement plat désormais à force d'être assis sur ses sièges. Mais qu'on pouvait s'estimer heureux car l'année précédente encore, il n'y avait même pas de coussin.
La prima posizione yoga che noi abbiamo quando facciamo questo tipo di esercizio è veramente leggere. E quando è possibile leggere insieme, perché leggere.
On s'est parlé juste après, le temps d'une longue cigarette. Il se demandait quels itinéraires on avait empruntés pour arriver jusqu'à Turin et quels étaient les critères qui déterminaient le choix des routes. Des questions qui rappelaient son intérêt pour les cartes, la navigation, la géographie. En somme, des questions simples auxquelles on n'a pas eu de grandes difficultés à répondre. Il tenait en main un livre qu'il voulait nous offrir, mais reconnut que l'objet n'était pas des plus appropriés au voyage et proposa alors de l'envoyer par la poste. En partant, on a oublié de lui communiquer l'adresse.
Géraldine, Roberto, l'écoute de ce projet révèle un entrelac de récits et de sonorités musicales qui sont très riches, évocateurs, des paysages sonores aussi. Cela dit, ce titre, Les mains vides, comment est-il apparu durant ce voyage?
Bah, on avait déjà, donc si tu veux, les textes qu'on avait écrits, plus le matériel sonore qu'on pouvait avoir enregistré, d'abord il y a eu une lecture des textes qu'on a fait, une version performance, et on s'était vraiment plu dans le récit oral. Et ensuite, si tu veux, ça a été fondamental la rencontre avec Ettore Scola, parce que quand on est le texte qu'on a lu sur lui, il le dit à un certain moment, quand on lui déballe des pâtisseries pour juste, tu vas chez quelqu'un, souvent on arrive avec un cadeau. c'est une formalité sociale. Et lui nous a répondu, mais pourquoi? En fait, il n'y avait pas besoin. Mais on lui dit, c'était pas pour pas arriver les mains vides. Et là, il nous dit, mais pourquoi? Elles sont tellement belles. Et là, mais oui, effectivement. Mais oui, c'est tout est là en fait. On notre présence, le rapport humain, c'est suffisant. Et on se dit, ok, d'accord, on a réfléchi à ça. Dit, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça résonne chez nous en fait? Les mains vides, ça représente quoi? C'est le symbole de quoi? Et ça peut être quoi cette immatérialité? Comment on peut la traduire en fait? Qu'est-ce que serait la forme la plus adéquate? Et on s'est dit que c'était une forme orale, donc sonore par exemple. Et on s'est dit, probablement la manière la plus opportune, ça serait d'en faire un projet radio. Voilà. Et donc on a eu besoin de créer un récit avec d'autres éléments évidemment. C'est qui ça. Puisse faire cette variété aussi. Parce ouais. qu'on ne voulait pas que ce soit juste du récit, en fait. Mm. Parce que le voyage, pour nous, c'était tellement... voilà, comme tu peux bien t'en douter, il y avait des inspirations de nature très différentes. Mm. Les voyages... Enfin, le projet en lui-même étant aussi une rencontre un peu insolite entre les sports et l'art, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude d'expérimenter. Mm.
Oui, et puis il y a vraiment eu plusieurs étapes dans cette manière de structurer le projet. C'est que donc au début il y a eu cette présentation orale sous forme donc de performance où on lisait les textes, où là déjà on avait réfléchi à, on avait simplement utilisé la forme chronologique en fait, à savoir le voyage s'est déroulé, donc les premières personnes qu'on a rencontrées, puis les suivantes, etc. Et puis ensuite on a passé une semaine aussi avec Lucien Bertolina, qui était le prof qu'on avait au Beaux-Arts, avec qui on avait très peu travaillé d'ailleurs, mais qui s'occupait du son justement. Et donc on est allé une semaine chez lui comme ça pour un petit peu débroussailler le tout. Et puis c'est là qu'on a commencé à imaginer comment enrichir aussi d'un point de vue sonore ces lectures de textes qui pouvaient être voilà qui avaient été faites en studio, etc. Et puis c'est à ce moment-là qu'on a commencé à regarder toute la matière sonore qu'on avait déjà issue du voyage, hein. Donc il y a plein de moments où effectivement on s'arrêtait pour enregistrer des choses, ou alors on se retrouvait face à certaines scènes qu'on a eu envie de garder. Et puis
on a fait une interview.
Ouais. Et ensuite en arrivant à Méduse, à Avatar, on savait pas trop, on avait énormément de choses. Enfin, et puis on n'est pas habitué à travailler le son, donc effectivement on s'est dit on va y aller de manière tout à fait empirique. comme on fait quand on est à l'atelier et qu'on manipule des objets. On va partir de la structure chronologique, avec comme base vraiment les textes des rencontres, puisque c'est ça qui était la vraie substance.
Des étapes, en fait.
Ouais, et puis ensuite ça s'est fait assez naturellement en fait. On a adoré on a adoré travailler le son comme ça. Bon, on était dans des super conditions, mais les choses parfois
ça semblait s'imbriquer assez
ça
bien.
Ça s'imbriquait assez naturellement.
Parfois on s'est rendu compte qu'il nous manquait certains éléments, par exemple certaines substances, on va dire, et du coup on les a enregistrés justement au Québec. Par exemple, il y a un passage dans lequel il y a un texte qui commence sur la diététique, quoi, qui est un espèce de pseudo-science, texte à caractère scientifique, et on l'a enregistré aux cascades des Holchutes de Montmorency, exactement. Du coup, puis on allait enregistrer dans le chalet chez Mélanie, parce qu'on voulait avoir un peu les sons derrière de ces oiseaux magnifiques que vous avez là-bas, qui s'appellent les Whistler of the North. C'est des oiseaux qui font un son... Comment ils font, là?
Je ne sais plus le faire maintenant. Oui, voilà.
Okay. Je me suis bloquée pendant la montée. J'ai passé les vitesses trop vite et ça s'est claqué, claqué, mais c'était bien.
Et à Torrescola, c'est apparu quand?
Et Torrescola, c'est apparu il y a 2 ans, je pense.
Mais t'as eu quoi? C'était quoi, les premiers Freux et les méchants?
Torrescola est un loup blanc bienveillant. L'appréhension que nous avions à l'idée de se trouver en face d'un pape du cinéma italien, à l'époque où ce cinéma était la meilleure expression de son genre au niveau international, s'évacua aussitôt qu'il nous accueillit par sa présence souriante et familière. Ciao nonno, come stai? Il nous fait accommoder sur les 2 fauteuils en face de son bureau, derrière lesquels il s'est entre-temps assis, cigarette en bouche, panoplie de livres en fond. À sa droite, il y a les cahiers de Gramsci. À sa gauche, un œuf sculpté. Il nous demande la raison de notre visite à Rome. Certains viennent à Rome pour rencontrer le pape et d'autres pour être à Scola. Il répond, Scola reçoit plus facilement. Nous l'aimons déjà, cet homme aux yeux vifs et curieux. Nous lui parlons de notre pièce Cartonville, qui est quelque part un hommage à Brutti, Sporchi et Cattivi. Il ne semble pas avoir plus de mal, lui, à se l'imaginer, que moi à la décrire avec mon italien sommaire d'expatrié. La conversation est agréablement répartie. Il est curieux d'en savoir plus sur les voyages, sur notre pratique, sur les soutiens obtenus auprès des institutions, etc. Il nous demande si Cattelan fait partie de la liste. Ettore nous laisse entendre qu'à son époque, lui et ses camarades Fellini, Pasolini, Germi et Monicelli étaient très solidaires, s'estimaient, s'admiraient, se respectaient. Ils gagnaient assez d'argent pour pouvoir vivre de leur métier, mais pas assez de quoi devenir riches. Ils avaient confiance dans l'avenir du cinéma et la certitude qu'il n'aurait pu se passer d'eux. Phrase qui n'a pas résonné prétentieuse, mais optimiste. Le téléphone sonne. Ettore répond. Ciao Federico. Puis il pose sa main sur le micro et nous dit. Non quello vero. Ce qui signifie pas le vrai. Cet instant, dont nous sommes les spectateurs privilégiés, témoigne de l'amour que Scola porte à Federico Fellini, après avoir longtemps aimé Vittorio De Sica. C'eravamo tanto amati était le titre du film dédié à De Sica. Che strano chiamarsi Federico, c'est lui un hommage à Fellini. 2 titres qui donnent la chair de poule. À un moment, une question idiote est sortie. Un film sans visage, pourrait-il être un film d'Ettore Scola? Il dit. En nature, la forme la plus parfaite est l'œuf. Mais un acteur avec une face d'œuf serait un imbécile.
Dans Gente di Roma et dans la plupart de son œuvre, il y a l'envie de rendre une sorte de justice poétique aux classes pauvres. Lorsque tout tribunal aura émis son verdict, c'est dans les salles de cinéma qu'aura lieu un dernier appel. Ettore Scola a des idées générales, mais ne fait pas de généralisation. Il cite souvent Antonio Gramsci, qui écrivait sur des sujets divers et variés, malgré la réclusion forcée dont il avait été victime. Il cite souvent Vittorio Gassman, qui était à l'origine de sa carrière de réalisateur. Il adaptera pour lui des rôles inédits et sur mesure. La mesure de Gassman faisait 2 mètres de haut. Avant de partir, nous sortons du sac à dos des pâtisseries de premier choix, achetées dans la rue parallèle. Ettore en demande la raison. Nous répondons que c'était pour ne pas arriver les mains vides. Alors il nous dit « Ma perché? Sono tanto belle les mani vuote. » Mais pourquoi? Elles sont si belles les mains vides.
CKRL, communication, culture.
Particules sonores. Particules sonores. Fragments de bruit. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son.
Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La croche-oreille.
Alors voilà, on est de retour, c'est la croche-oreille sur les ondes de 89.1 CKRL. Alors j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver la liste des pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous faites une recherche sur le web, la croche-oreille, et vous allez y trouver le descriptif de l'émission ainsi que toutes les émissions en balado, diffusion pour écoute immédiate ou encore pour écoute en différé. Alors cela dit, avant de poursuivre l'écoute du beau projet radiophonique Les Mains Vides de Géraldine Pi et de Roberto Verde. Je vous les présente sommairement. Géraldine, elle est française. Roberto, il est italien. Ils font ensemble les Beaux-Arts à Marseille et deviennent compagnons de vie, tout aussi que compagnons de vie quotidienne. Le hasard a bien fait les choses. Je pense qu'ils ont participé depuis 2008 à plusieurs expositions personnelles et collectives en Europe, notamment dans les centres d'art La Friche Belle de Mai, Le Frenois, la Villa Arson, Le Cartier en France, Le Pave en Italie, Argos, Les Brasseurs en Belgique. La liste est plutôt longue. Leurs performances, parce qu'ils sont aussi performeurs, et leurs vidéos ont été programmées au Festival Hors Piste à Paris, au Palais de Tokyo, au Frac Nord-Pas-de-Calais. Et ils ont complété en 2018 ce projet qu'on écoute ce soir intitulé Les Mains Vides avec le concours réalisé avec le concours d'Avatar, un projet qui a été initié tout de même en 2016 en France. Alors, pour résumer vitement leur démarche, je m'en remets aux commentaires de Sandra Adams-Couralet et là j'ouvre les guillemets qui dit Géraldine Pi et Roberto Verde et la des scénarios adaptatifs qui acceptent l'imprévisibilité comme mode opératoire au travers de films, d'installations et ou de sculptures. Ils explorent des phénomènes empiriques s'attachant au monde animal comme au monde inerte des matériaux. Toutes ces aventures de hasard anthropique, dit-elle, sont les jalons de la pensée d'un tout plus grand que la somme de ses parties. Et là, je referme les guillemets. Je vous cite Sandra Adams Couralet à propos du travail de Géraldine et de Roberto. Alors, on écoute ensemble la suite de cet entretien que m'ont accordé Pi et Verde, assorti d'extraits du projet radiophonique Les Mains Vides.
Voilà, il est 20h. Allez, on s'est encore fait un peu avoir avec la nuit qui tombe. Donc voilà, on a des lampes frontales et des super lumières.
Comment ? Ah oui.
Les routes jusqu'à maintenant étaient très belles. Petit village, colline. Et là, ça commence à être un peu plus fréquenté, bétonné.
Voiture.
Est une ville magique. Les maisons en briques couleur terre de ciel.
Géraldine, Roberto, bon, vous êtes complices depuis plusieurs années maintenant, ce qui s'avère sans doute un défi de cohérence et de complémentarité. J'aimerais vous entendre ce soir sur votre démarche artistique commune. Quelles sont vos principales motivations, vos champs d'intérêt communs?
Faut imaginer que donc on s'est rencontré aux Beaux-Arts et que Géraldine elle est très animée par déjà la littérature de Beckett, donc tout ce qui est de l'ordre de l'absurde. Enfin c'est vraiment une grande admiration pour cette littérature là, cette poésie, hein. Et la mécanique. Donc elle faisait pas mal d'installations donc vivantes, mais créées avec elle insufflait de la vie, si tu veux, à des matériaux inertes. Moi, j'arrivais d'Italie, c'était ma première année aux Beaux-Arts de Marseille, et j'avais eu une fulguration pour l'arte povera. Donc tout ce qui était lié à une, bah évidemment à des matériaux nouveaux dans le champ de la sculpture, et j'avais une très forte envie de faire de l'art vivant, donc quelque chose qui partage la même temporalité que nous. Donc nous être vivants, tu vois. Donc quand on a commencé à
que moi effectivement j'étais intéressée au vivant, mais en essayant de les matériaux inertes allaient avoir un comportement. Et puis, on s'est mis à travailler ensemble tout naturellement, parce que même si les éléments qu'on utilisait pouvaient être différents, même si nos champs d'inspiration étaient différents, on pouvait parfois arriver aux mêmes idées. Et puis où on avait envie de donner le même sens aux choses, ou de travailler sur la même poésie. Et puis du coup on s'est dit bon bah ok, la prochaine fois qu'on discute ensemble d'un projet et puis qu'il semble similaire, on essaye de le faire ensemble.
Et on a fait j'ai invité Géraldine à participer, à venir travailler avec moi sur une idée que j'avais avec des crabes et des ballons à l'hélium qui s'appelle Fabouille. C'est une vidéo que du coup, à la base, on voulait la réaliser, si tu veux. C'était l'idée d'avoir des crabes attaché un petit ballon à l'hélium et de filmer ça à la plage, si tu veux, pour les voir disparaître dans la mer, quoi. Impossible. Parce que, si tu veux, techniquement, le vent, un petit peu de vent qui soufflait, dans une certaine direction, faisait que on aurait eu l'impression à l'image que les crabes
ils allaient. Ça rendait la chose tragique.
Ça rendait la chose tragique, alors qu'en fait on voulait créer quelque chose de festif, tout simplement. Et Géraldine elle a eu l'intuition, c'est-à-dire c'est pas les bons contextes. Il faut pas qu'on reste dans le naturel. On va faire ça à l'atelier.
Voilà.
C'était ça, ce basculement des perspectives. Ça fait qu'on était enfin dans une hybridation des deux univers. Et donc l'artificiel, si tu veux, il est naturel, puisque les crabes, c'est des créatures qu'on avait achetées. Et ça, c'est cette hybridation-là, c'est devenu vraiment le noyau de notre pratique, qui, pour le coup, elle est hybride entre la nature et la science, entre le recyclage et l'ingénierie. Dans les fonds, ce qu'on crée, c'est toujours à caractère, on pourrait dire tout simplement, soit poétique, soit humoristique, en fait. Mais c'est très souvent, encore une fois, c'est indissociable, en fait.
C'est indissociable, et puis il y a toujours l'importance du processus. On met quelque chose en place, bah, parce que voilà, on était tous les deux intéressés par le vivant, soit créé par les éléments naturels utilisés, soit par des machines qui en fait recréent une forme de vie. C'est très très important pour nous, toujours le processus. Ouais.
Ubald est un jeune homme de 65 ans qui habite à Castel Bolognese, un village près de Faenza. Il fait du cyclotourisme régulièrement et du vélo quotidiennement. Un jour, il décida de vendre sa voiture, lassé de consacrer une grande partie de son budget à l'essence, la taxe de circulation, l'assurance et l'entretien. Il investit la somme de la vente pour s'acheter un sauna, une salle de fitness, un troisième vélo, une caméra, dans cet ordre. Ubald Romagnolo, la région de la Piadina, des motards, des Fellini, et aussi de celles qui, à son avis, sont les meilleures pizzas. Nous l'avions aperçu de l'autre côté de la route, à la tombée de la nuit, habillé de son gilet jaune fluorescent. Il gesticulait pour attirer notre attention et nous faire comprendre qu'il fallait les suivre. Ce fut assez pour gagner notre confiance et nous attirer dans la fameuse meilleure pizzeria de la région, ou peut-être d'Italie, je ne sais plus. Nous le suivions comme des cantons attentifs et émerveillés par la manière qu'il avait de signaler un changement de direction. Il tendait son bras, au bout duquel sa main penchait mollement. Puis, au moment propice, il branlait l'air avec l'index pointé dans la direction désirée, avec un angle de 30 degrés. J'ignore s'il avait observé un prototype de ce geste redoutablement comique dans un de ses voyages, et s'il avait dû éduquer son poignet à bouger autrement. S'il avait appris par un aïeul ou en voulant parodier un voisin du coin, peu importe, ses gestes s'étaient installés dans son système nerveux. J'ignore s'il avait hébergé inconsciemment l'évolution d'un mouvement inédit et combien d'étapes avaient été utiles pour que se développe la forme dont nous fûmes témoins. Cet toc était son truc, mais nous ne lui en avons pas fait mention, craignant de voir la main se retrousser dans la manche, embarrassée comme un crabe au passage des touristes.
Sì, deve andare sempre dritto. No, 5 chilometri. Niente.
Ciao Leonardo. Arriveremo stasera a casa tua, passando gli Appennini.
Roberto termine la conversation, sourit et dit: il a l'air bizarre, ce Leonardo. Nous arrivons chez lui. Il sort sur le pas de la porte, comme s'il accueillait une dizaine d'enfants venus à sa fête d'anniversaire, avec ballons à l'hélium et confiserie. Il nous amène dans un parking pour que nos vélos y passent la nuit. Il fait froid, c'est peut-être pour cela qu'il sautille encore. Nous prenons l'ascenseur et arrivons chez lui. Ça sent le repas chaud, pas tout à fait une odeur qui donne faim, mais peu importe, car nous sommes affamés après avoir traversé la montagne. Il nous montre notre chambre, sans quoi nous ne l'aurions pas trouvée nous-mêmes, c'est une grande maison. En tout cas, il y a des pièces en quantité. Nous avons la chance d'avoir le dernier lit disponible dans son bureau. Un lit double, les draps dans leur jus, une table sur laquelle un gros PC ronronne jusqu'au prochain calcul. Leonardo est informaticien, dans un collège à Florence. En effet, sa chevelure pourrait avoir été sortie à l'imprimante 3D, puis mise en vrac par une électrocution bénigne. Nous allons dans la cuisine. On s'assoit sur les chaises qu'il nous indique. On aurait pu trouver la solution nous-mêmes car il n'y avait que 3 chaises. Mais dans cette perspective, l'un de nous deux aurait toujours pu faire le mauvais choix et s'asseoir sur celle sur laquelle Leonardo avait placé ses espérances. Cela faisait très peu de temps que nous nous connaissions, mais nous avions rapidement intégré le fait qu'il ne fallait pas contrarier Leonardo. Sinon le corps se met en branle, gesticule de plus en plus vite, les cheveux impriment la même excitation, et le regard fusillant ne parvient pas à faire la mise au point sur la cible. Il nous sert le repas, une soupe qu'il a fait décongeler l'après-midi sur le bord de la fenêtre au soleil. On commence à parler sérieusement, c'est-à-dire de l'activité qu'il occupe vraiment, de la passion qui l'anime, du sens de sa vie peut-être, accueillir des voyageurs chez lui. Me regardant, il m'apprend que les Français restent en moyenne 2,5 nuits à Florence, les Belges 2 nuits, les Espagnols 4 nuits, les Russes 3,5 nuits, les Indiens 4 nuits comme les Espagnols, et les Japonais restent le plus longtemps, avec une moyenne de 5 nuits. Très peu viennent seuls, ils sont en général 2 ou 3, mais il a aussi accueilli des groupes parfois. Rappelons que la zone est touristique pour diverses raisons très valables, et que Leonardo nourrit peut-être secrètement l'espoir de se voir un jour classé parmi les choses à ne pas manquer à Florence. Reste à savoir la catégorie qu'ils lui auront réservée. Il continue à nous raconter comment gérer toute cette fréquentation, une vraie logistique qui semble être devenue son terrain de jeu. C'est vrai qu'il a l'air bizarre, ce Leonardo. On l'appréhende désormais non plus comme notre hôte, mais comme un personnage en cours d'élaboration. Le moment précis où son statut a basculé, c'est lorsque je me suis aperçue, en levant les yeux de mon assiette, qu'il expliquait tous ces détails en se balançant sur sa chaise, non pas d'avant en arrière, mais plutôt de gauche à droite. Il oscillait comme un pendule, et malgré la vitesse de balancement, le temps passait très doucement. Il n'était que 21h30, et nous étions déjà épuisés, comme si à chaque fois qu'il se frottait les mains l'une contre l'autre frénétiquement, il nous enlevait encore un peu plus d'énergie. Il nous dit qu'il avait quelque chose d'indécent à demander à Roberto. En attendant, je décidais d'aller prendre une douche. J'entrais dans la salle de bain et en ressortis aussitôt. Je n'avais jamais vu un tel carnage. Même après avoir roulé plus de 100 km dans la boue, avoir fait suer toutes mes cellules sur les routes de montagne, j'étais plus propre que le bac de douche. Si j'entrais de nouveau, c'était sans aucun doute une perte de temps. Mais avais-je du temps à gagner, vu l'ambiance de la soirée? Je décidai donc d'y aller, juste pour faire couler de l'eau froide sur les mollets, m'évitant ainsi de vilaines courbatures pour le lendemain. Je ressortis avec, accroché sur quelques zones non choisies du corps, des poils et cheveux ne m'appartenant pas. Et je ne continuerai pas la liste, craignant même encore aujourd'hui d'en avoir des frissons. Roberto avait accompli sa mission brillamment, et Leonardo le remercia d'un sourire bien à lui, qui faisait passer à jamais l'envie de lui rendre service de nouveau. Il décida d'aller se laver aussi, dans l'autre salle de bain que lui indiquait Leonardo. À sa sortie, Roberto était livide. Il ne dit pas un mot, et je comprenais même qu'aucun son ne sortirait plus de sa bouche avant le lendemain. Il voulait que cette journée s'arrête. J'annonçai alors à Leonardo que nous allions nous coucher. Il nous accompagnait à notre chambre, sauf que cette chambre étant aussi son bureau, il fallait encore travailler un peu. Il lança un logiciel qu'il avait créé, recensant et générant des statistiques de son activité d'hôte. Il me demanda quelques informations basiques, à peu de choses près celles que l'on remplit dans toute cellule administrative, là où il avait sûrement puisé son inspiration. Il m'annonça en frictionnant de nouveau ses mains l'une contre l'autre, se balançant sur sa chaise de gauche à droite, sautillant simultanément, imprimant la même excitation à sa chevelure, que j'étais la 2968e invitée du système. Je ne savais pas si je devais m'en réjouir ou en être effrayée, mais peu importe, mon compte était créé. Satisfait, il décidait de nous laisser dormir, éteignit la lumière et nous rappela qu'il partait au travail à 8 heures et que par conséquent, nous devions nous lever à 7 heures. L'épuisement auquel nous étions en proie nous permit de passer une nuit complète, sans être certain pour autant que Leonardo ne se soit pas introduit dans la chambre alors que nous dormions. La désagréable sensation de n'avoir pas passé la nuit seule était bel et bien palpable. Nous étions debout à 7h30. De l'autre côté de la porte, c'était la jungle. On entendait l'eau qui coulait sans cesse, les portes s'ouvrir et se fermer, des voix chuchoter. C'était certain, Leonardo avait dû se dédoubler pendant la nuit, et ils étaient maintenant 6 ou 7 du même sang, à attendre fébrilement que nous sortions de la chambre. On avait bien peu de courage, mais aucun autre choix. Je sortais en premier, suivi de très près par Roberto. À la lumière du jour, le décor était aussi absurde que terrifiant. Il y avait des lits, des canapés-lits et des matelas au sol presque partout. Des coussins, des couvertures, des serviettes et des filles dans les espaces restants. Elles avaient dormi là aussi. Comment l'air pouvait-il encore être respirable? Comment pouvait-il y avoir assez d'oxygène pour nous tous ici? La voix de Leonardo me sortit de mes interrogations. Je n'arrivais pas à distinguer d'où elle venait, cette voix dont la nuit m'avait aidé à en oublier ses grincements. L'espace, l'air, le son, tout était saturé, mais je finis par l'apercevoir dans le salon, assis calmement, devant le nécessaire pour le petit déjeuner. 3 minutes plus tard exactement, nous étions tous sur le paillasson devant la porte. Nous, les filles, les coussins, les sacs de couchage, les valises. Les filles ne semblaient pas avoir passé une très bonne nuit, mais elles remercièrent une à une Leonardo pour son hospitalité et partirent aussitôt, aussi vite que possible, c'est-à-dire en marchant à vive allure, sans courir pour éviter de laisser transparaître la peur dont elles étaient victimes. Leonardo nous accompagna au parking. Rien n'avait bougé depuis la veille. Nos vélos étaient là et il faisait même à peine plus chaud. On voulut saluer Leonardo, mais il ne souriait plus, ni ne riait. Il ne tremblait plus, ses cheveux étaient plats. Il ne dit rien, c'est à peine s'il nous reconnaissait. Nous avions incarné, le temps d'une soirée, l'objet de ces jeux intimes, et à la lumière crue du lendemain matin, de celles qui disent la vérité, nous n'étions plus que 2 serpillères sales et humides, qui avaient épongé ses plus obscurs fantasmes et qui sécheraient au soleil sur la selle d'un vélo. Depuis ce jour, je ne peux faire autrement que de me demander quel destin aura été réservé aux 3000e visiteur.
Et avec l'envie de l'humiliter le fond durant cet écran. Salimani di tirati giù, c'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma sintomatico mistero. Restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere.
Géraldine Py et Roberto Verde, j'aimerais terminer notre échange sur vos projets à venir. Vous arrivez tout juste de Rouen. Qu'est-ce qui s'annonce pour les prochains mois?
On vient d'avoir une rentrée donc dans laquelle on menait deux projets en même temps. Un, c'était une exposition sur l'expo, ça s'appelait les machines célibataires, donc c'est une expo, on va dire, mécanique, dans laquelle on a présenté une nouvelle pièce qui est quasiment de la robotique. Enfin, c'est une pièce sonore en fait, à partir d'un hand spinner, tu sais, c'est ces jeux pour les enfants qui font tourner dans leurs doigts, qui télissent comme ça. Et on a découvert que cet objet-là, il produit un volume sonore incroyable lorsqu'il est, par exemple, soufflé par une soufflette de compresseur. Donc on a fait une espèce de machine infernale. Et on a présenté aussi deux autres pièces qu'on avait déjà réalisées. Donc une qui était une partie d'une série d'animaux de compagnie, on appelle ça, des touffes en fait. C'est de la limaille de fer qui s'anime avec des aimants et des monteurs et qui devient comme des sculptures à caresser, quoi, animées, qui tournent, ça. Et un ensemble de trois tuyaux, c'était une vieille pièce de Géraldine, du temps des Beaux-Arts, mais des tuyaux qui rassemblent à des verres. Et en même temps, donc cette expo sur la mécanique qui était très, très, très belle et dont on était très content, on a fait un projet de toute autre nature qui est plutôt un événement de cabaret. Géraldine et moi, c'est la deuxième fois qu'on fait ça. Donc on présente un cabaret. L'idée du cabaret étant qu'on a une scène avec une vingtaine d'artistes, par exemple, qui se produisent pour une courte durée avec des numéros, des sketchs, ça peut être de la chanson, ça peut être du texte, de la poésie, de la performance, de la danse. Et il y a de la restauration sur place. Donc les gens, ils boivent, ils mangent. Et c'est une forme très différente, oui, de ce qu'on a l'habitude de faire.
Et ça, c'est encore une voie parallèle, un petit peu comme le projet radio, là, le voyage, c'est encore une autre forme.
Mais ça correspond un peu au projet du voyage, parce que là, pour les coups, avec les cabarets, ce qu'on fait, c'est qu'on a envie de faire une famille avec les gens de notre génération. Voilà. Les artistes de notre génération qu'on aime, tu vois. Mmh. Alors que dans le projet du voyage, c'est un pèlerinage, on va rencontrer des plus anciens, si tu veux.
Mmh. Géraldine, Roberto, merci de m'avoir accordé cette belle rencontre.
Génial. Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup. Hein.
À bientôt.
Ciao, Gaëtan. Merci. Ciao.
Je sais même pas vraiment à quoi il ressemble, Umberto Eco. Tu peux le décrire, toi?
C'est un barbu avec des lunettes.
Alors voilà ce qu'achève cette rencontre avec Géraldine Py et Roberto Verde à propos de leur projet intitulé Les mains vides. Vous pouvez écouter l'intégrale en écoute libre sur le site d'Avatar ou encore sur la plateforme SoundCloud. Cela dit, quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1. Tout de suite après l'émission, c'est mon roi avec Web Musique. Et comme mot de la fin, ben, je vous dis, prenez soin d'écouter les sonorités autour de vous.
Je sais pas s'il va passer là. Je crois pas qu'il habite dans ce quartier.
Pour la énième fois, on enfourche nos vélos, laissés au regard affûté d'un barbier.
On termine ce voyage avec la musique du film Le Bal d'Ettore Scola. On remercie tous les artistes qui ont dansé avec nous.
Michel Blasi,
Anita Molinero,
Ettore Scola,
Alessandro Baricco,
Roman Signer et Alexandra Signer.
On remercie Michela Sacchetto qui nous a lancé sur la route.
Le centre d'art Les Quartiers, Anna Olszewskaya et Karen Deton.
On remercie chaleureusement Lucien Bertolina, dit Odor House et Tank, pour leur soutien et leur accompagnement.
On remercie Marta Trucco et la Scuola Holden, Irene Dionisio.
toute l'équipe d'Avatar, Méduse et Mélanie Bédard.
La galerie Osler à Zurich et la galerie Sprutmagers.
Et on remercie
pour leur accueil pendant les voyages Nicole, Balm,
Leonardo et Michel.
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.